Voilà, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, avec un petit peu d'ambiance sonore derrière, et on va laisser la place et la parole aux artistes du salon Lille Art Up 2021. Alors, découverte de Megan Moshra de Lompré. Bonjour Megan.
Bonjour.
Donc voilà, un univers, alors je vais dire de lignes, de couleurs et de plans.
Oui, absolument. Beaucoup d'inspiration minimaliste, mais minimaliste et colorée. C'est un ancien travail. Maintenant, je suis beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple, neutre, j'ai envie de dire, mais pas vraiment, simplement dans les couleurs. Et donc, pour Art Up, j'ai revisité cet ancien travail et je reviens aux couleurs vives, franches, complémentaires.
Quelque part, ça ressemble à des plans de circulation. Enfin, ça peut évoquer des univers différents, de la signalétique aussi un peu. Et au-delà de ça, peut-être dans l'art contemporain, enfin l'art moderne, on va appeler ça comme ça, il y a des résurgences.
Oui, tout à fait. Alors, je n'irai même pas donner des références précises, mais je pense que si on voit ces lignes, on peut penser à énormément d'artistes, mais aussi à l'histoire de l'architecture. Et la signalétique, bien sûr, ce sont les bandes dans l'espace. Et là, on parle bien d'espace, de corps, de circulation, de perception des couleurs. Et donc, voilà, c'est tout ça, et c'est tout ça dont parle cette œuvre.
Donc cette œuvre qui est là, elle est sur un mur, mais aussi sur un sol, et ce n'est pas sans problème.
Non, alors justement, signalétique, eh ben, apparemment ça ne fonctionne pas, parce que un des volumes, parce que ces lignes deviennent un volume, elles sortent d'une toile, elles rampent sur le mur, sur le sol, en tant que couleur vive, et ensuite elles s'emparent de l'espace en 3D en devenant un volume, et un des volumes vient d'être cassé malencontreusement par une visiteuse, donc c'est pas grave, mais voilà, donc maintenant l'installation a une petite cicatrice. Et puis on apprend un peu à... Bon, je me demande où est-ce qu'elle posait son regard, est-ce qu'elle regardait en haut, est-ce qu'elle regardait au loin, comment ça se fait qu'elle ne l'ait pas vue, mais c'est comme ça.
Voilà, donc toute la question du rapport au public et aussi de la présentation. Ici, on est dans un espace partagé. Peut-être il n'y a pas suffisamment, pour le coup, de signalétique spécifique pour appréhender l'œuvre.
Tout à fait, un manque de recul aussi, mais bon, c'est le jeu, c'est une foire d'art contemporain, alors j'ai dû jouer parce que donc, ces bandes, c'est du papier peint qui d'habitude, à l'origine, se meut totalement dans le mur avec ses petits défauts, et ici, les murs, donc les cimaises, sont recouverts de tissu, donc ça a été tout un jeu même, mais un jeu un peu compliqué de poser ces bandes sur le tissu, mais ça fonctionne et effectivement il y a quand même cet espace relativement restreint. Donc j'ai essayé d'aménager plusieurs points de vue, j'espère que ça fonctionne. Tous les spectateurs ne peuvent évidemment pas le comprendre en passant simplement, mais certains s'arrêtent, prennent le temps d'essayer d'appréhender l'œuvre avec le recul qu'on peut lui accorder, les points de vue qu'on peut lui accorder. Et voilà, c'est aussi un jeu. C'est vrai qu'elle est presque trop grande dans son espace et en même temps, elle reprend les couleurs des autres œuvres de mes collègues qui sont dans l'espace. Elle est un peu la porte d'entrée et la signalétique, on y revient. Et donc, c'est aussi un honneur, je pense, d'introduire la colorimétrie presque aussi des autres œuvres.
Voilà, donc cette œuvre prend un certain espace dans l'espace, hein, elle est conséquente. Elle est à mettre en perspective avec d'autres œuvres de vos créations. Quelle est votre spécificité ?
Alors, c'est une installation. Donc, tout mon travail, c'est de l'installation, même si je tends à donner plus d'autonomie à mes travaux, plus de sculptures, plus de toiles ou d'objets tableaux. Cependant, cette installation, c'est vraiment mon premier amour et c'est celui qui reste. Mes installations maintenant sont plus épurées, mais elles gardent cette dimension et elles gardent vraiment surtout l'intégration du corps du spectateur qui est incroyablement important. Moi, je suis restée sur cette phrase de Duchamp qui disait qu'il n'y a pas d'œuvre sans spectateur et je reste là-dessus parce que quand mes œuvres sont emballées, elles ne ressemblent pas du tout à ce qu'elles sont dans l'espace. Là, ces bandes, ce sont des rouleaux, les volumes sont des plaques colorées sans d'autres intérêts. Et j'aime vraiment cette cette idée que quelque chose de tout petit peut devenir une installation immense. Donc je vais déployer un tissu, je vais déployer des bandes de scotch et voilà, pour intégrer l'espace et intégrer le corps du spectateur.
Donc c'est vrai qu'avoir une œuvre multidimensionnelle, on peut dire ça comme ça, et d'exploiter un espace, voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça peut s'adapter à divers lieux? Comment vous ressentez les potentialités de votre travail dans différents espaces, connus ou moins connus?
Bah alors, connu ou moins connu, je ne sais pas, mais en tout cas, le côté modulable est très important. Et souvent, j'ai construit un travail pour un espace. Alors bon, en art contemporain, on va souvent le construire pour un white cube, donc cet espace normé, blanc, au sol gris, plutôt carré. Et en fait, moi, ce que j'aime, ce sont justement les espaces qui vont accueillir les œuvres et m'adapter à ça. Et me dire comment est-ce que je vais dialoguer. Par exemple, à Artup, on n'a pas de hauteur. Il y a très peu de hauteur. C'est en tout cas sur les murs, parce que la salle est immense, mais les cimaises sont plutôt basses à l'échelle de la salle. Donc, comment est-ce que je peux dialoguer avec ça? Est-ce que mon travail va rentrer dans cet espace particulier? La dimension de la circulation est aussi importante dans une foire d'art contemporain. Mais après, tous mes travaux ont différents états d'existence, un peu comme différentes vies d'un chat, et puis ils se déploient dans d'autres espaces et ça leur donne des caractéristiques.
Donc là, on part d'un espace, dans un cadre qui est une foire d'art contemporain. Est-ce que un lieu pourrait faire une commande pour un espace particulier à habiter d'œuvres?
Peut-être, je n'en sais rien, j'aimerais bien, ce serait génial. C'est vrai que l'installation, j'ai envie de dire, ne se vend pas très bien, donc la commande est particulière aussi. Mais moi, ce serait vraiment quelque chose que j'adorerais, et si ça pouvait être pérenne, parce qu'on aime le côté éphémère de l'art. Mais si je pouvais construire vraiment un espace, habiter un espace, et que mon œuvre habite l'espace, et qu'ensuite le spectateur habite cette œuvre, ce serait vraiment un grand plaisir de mener ce genre de projet.
Je vais donner un exemple simple, hein. Un cube, un espace cube. Est-ce que vous pourriez le rendre esthétiquement intéressant et lui donner un sens ou une direction?
Oui, alors le cube, finalement, la première chose que je ferais, ce serait de le déconstruire au niveau de ses angles, de ses arêtes, donc soit par la ligne, soit par d'autres volumes. Je pense aussi à un autre travail que j'ai fait, qui est un voile qui se déploie dans l'espace. C'est une doublure légèrement satinée et ces fils de coton qui suspendent. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est un produit industriel que j'ai mis justement dans une pièce très cubique. Et finalement, on a l'impression que cette pièce est un sorte d'extrait de paysage, un paysage un peu oriental, un petit peu aérien, très léger, désertique. Et donc, oui, plus l'espace va être cubique et simple, plus je vais essayer d'amener quelque chose d'organique, d'amener quelque chose qui casse les codes, d'amener peut-être l'extérieur à l'intérieur.
Partir d'une page blanche, c'est ce qui vous intéresserait ?
Toujours, oui. Alors, partir d'une page blanche, comme partir d'une page où il y a déjà des choses, c'est aussi intéressant. Mais la page blanche a beaucoup d'intérêt parce que ça laisse justement carte blanche à l'artiste de faire ce qu'on veut.
Ouais. Merci donc Mégane Mochra de Lompré.
Merci.
Vous écoutez Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, sur Radio Campus 106.6 FM, campusille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres révélations de ce Lille Art Up 2021.
Oh, my God. know the beat that she's gonna give ya, only her smile can all make it go to separation of a thousand more. Ooh, we make it bad, make it bad, make it bella. Can I get a ooh, we make it bad, makes my body dance for ya. Ooh, we make it bad, make it bad, make it bella. Can I get a ooh, we make it bad, makes my body dance for ya.
Nadège Sicard, bonjour.
Bonjour.
Donc on se retrouve ici dans ce salon Art Up, Lille Art Up, devant une œuvre. C'est une œuvre unique que vous proposez ici dans ce stand. Je ne vois pas d'autres œuvres exposées, à part une vidéo qui a une correspondance évidemment.
La vidéo, c'est une restitution d'une performance que j'ai réalisée en 2014. Où je portais justement l'œuvre qui est présentée juste devant vous, qui est une robe cousue main, faite intégralement en crêpe. Cette robe en crêpe, je l'ai du coup portée en 2014. Elle a été consommée par le public.
Donc quand on dit en crêpe, c'est vraiment en crêpe à manger.
Voilà, crêpe alimentaire, exactement. Donc je joue déjà sur cette notion de motif, avec selon différentes crêpes qui vont plutôt reprendre des motifs de dentelle ou de cuir tanné. Ce qui déjà visuellement fonctionne. Aussi, il y a ce petit jeu de mots avec le tissu de crêpe. Et du coup, cette consommation du tissu, de l'œuvre et de la nourriture, ainsi que de l'artisanat, de la couture. Donc, le public en 2014 a arraché ce vêtement, l'a consommé à même le corps. Et en même temps, je leur scandais des slogans de pub qui sont contemporains, c'est pas des slogans des années 50, mais qui sont foncièrement sexistes et violents dans leurs propos. Donc c'était un échange de violence avec le public, de violence et de consommation.
Donc quand je vois cette robe en crêpe alimentaire, on va dire ça comme ça, on n'a pas cette impression de loin que c'est une matière à consommer, mais vraiment un habit, un vêtement très cohérent en termes d'esthétique et aussi de couleur.
Oui, effectivement, la crêpe a diverses qualités esthétiques, aussi bien du coup ce motif de dentelle, ce motif de cuir, cette superposition qui fonctionne très bien, et aussi sa durabilité, parce que alors, la plupart de ces crêpes sont, cette robe est faite en crêpe industrielle, et en fait du coup elle est viable à très très long terme, elle peut se conserver plus de 20 ans sans bouger, dans le pire des cas, en fait elle va devenir fragile et craquer si on la touche, mais elle ne va pas pourrir ou elle ne va pas se désagréger avec le temps. Et c'est aussi un petit peu un clin d'œil à la robe en viande de Jana Sterbach.
Donc une œuvre d'art consommable mais durable.
Exactement.
Et qui se prête bien à une exposition. J'allais dire, même dans une vitrine d'art, enfin une vitrine de vêtements, elle aurait vraiment sa place.
La thématique de la foire est au fil de l'art. Et avec ce fil et cette création contemporaine, j'ai voulu représenter la robe en crêpe qui, pour moi, correspond totalement à la thématique.
Voilà, donc au-delà de l'esthétique, on a bien compris que derrière, vous avez un propos qui est autour de la considération de la femme dans la société, enfin dans les sociétés peut-être.
Bien sûr, on arrive à une ère et une époque de changement, de dénonciation de nouveau. Et maintenant, on parle, et on parle de tous ces sujets, du féminisme, de l'écologie, de la décolonisation. Et je pense que l'art doit y participer grandement.
Au-delà de cette robe, donc, j'ai vu des œuvres que vous avez présentées déjà ailleurs. Hein, et on retrouve ce fil conducteur d'une certaine forme de revendication, peut-être de provocation d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a de la vengeance derrière tout cela ?
Je ne pense pas qu'il y ait de vengeance. Effectivement, il y a de la revendication. Je pense que l'art se veut politique, qu'il le veuille ou non. N'importe quelle œuvre aura une importance politique. Mais j'aime considérer mon travail comme un moteur de sujet à sujet et comme une déconstruction de l'autorité.
Donc, quand on dit autorité, souvent on pense à l'image du père, je ne sais pas pourquoi.
C'est vrai que l'image patriarcale revient souvent dans l'autorité. On peut le voir ne serait-ce que dans la langue française. Le maître, c'est quelqu'un de sévère, c'est le maître d'école, c'est le maître l'avocat. La maîtresse, ça sera plutôt quelqu'un à la morale un petit peu légère. Donc il y a toujours effectivement ce côté patriarcal dans l'autoritaire, dans le masculin.
On vit dans une époque où on dénonce beaucoup, j'allais dire on balance. Est-ce que les hommes et les femmes s'opposent ou sont par nature amenés à vivre une certaine fraternité au-delà de la sexualité ou de propos de genre ?
Je pense qu'il ne faut pas penser la chose comme une opposition ou une binarité. Je suis contre ce blanc ou noir et cette binarité de hommes et femmes. On est tous des êtres humains qui méritons de vivre sans pression, sans jugement, sans attente de l'autre. Et je ne pense pas que ce soit une histoire de vengeance. Je pense que c'est plus aujourd'hui un moment où les choses sont dites, revendiquées, et que ça se remettra dans l'ordre, comme vous dites, quand on comprendra des deux côtés et de tous les côtés qu'on a tous les mêmes droits et qu'on est tous égaux.
Voilà, donc on vit une société un peu compliquée. On se pose aussi la question de l'avenir de l'humanité. Hein. Est-ce que les relations hommes-femmes peuvent amener aussi l'humanité à évoluer, voire à se modifier en profondeur ?
Il faut qu'il y ait du changement rapidement, que ce soit encore une fois dans l'écologie, le décolonialisme et le féminisme. On est dans, pour moi, une nouvelle génération qui avons des revendications qui doivent être écoutées et qui sont vouées à changer dans tous les cas. Et j'espère que ça va se faire rapidement.
Donc, Nadège Sicard, vous avez un propos au travers de votre œuvre. Est-ce que votre œuvre vous avez prévu que votre œuvre évolue vers d'autres sujets ? Lesquels ?
Je pense continuer dans mes revendications de déconstruction de l'autoritaire, parce que je pense qu'il y a encore énormément de travail sur cette voie-là, que ces revendications sont aussi bien moteurs pour moi qu'excuses à créer, et que l'objet appelle à la contestation et que la contestation appelle à l'objet.
Voilà, donc un art légitimé par des valeurs et une combativité.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
En ville, le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité.
Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3. Un bonheur simple, mais à mon goût,
C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige une planche de salut loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige une planche de salut loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Oh, que neige alors une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise ta lune pour sécher le sel de mes larmes. Que neige une planche de salut loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige une planche de salut loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige une planche de salut loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM. Je vous propose toujours cette promenade, pas forcément insolite, mais diversifiée, on va dire ça comme ça, dans l'univers de l'art contemporain du Salon Artup 2021, où nous avons retrouvé des personnes très intéressantes, des artistes qui sont les jeunes talents et les talents de demain, donc repérés dans le cadre des Révélations 2021. On poursuit notre petite promenade. Alors, avec Sarah Van Melick, il va nous présenter aussi une œuvre, enfin son travail très original. Campus 106.6 FM.
Bonjour, je m'appelle Sarah Van Melick. J'ai passé mon DNSEP à Toulouse et après je suis venue aux Beaux-Arts de Tourcoing continuer ma formation, donc en CE2A, afin d'enseigner l'art. Et j'ai une pratique de la gravure que j'ai développée durant mon cursus. Et je mélange aussi beaucoup la gravure avec la sculpture. Donc je fais, ici pour cette pièce, je fais des tirages au plâtre. Donc je prépare ma plaque de métal comme on ferait une gravure traditionnelle, mais je fais un coffrage et je coule du plâtre dessus. Et par une réaction chimique, le plâtre absorbe l'encre.
Il y a un petit effet, bon c'est en noir et blanc, mais il y a un petit effet tapisserie.
Oui, en fait, le titre, c'est « Aya al-Salat, Aya al-Fala ». En français, c'est « Levez-vous pour la prière, levez-vous pour le travail ». Et j'ai trouvé que cette phrase, elle était assez incongrue de lier la prière et le travail dans la même phrase. Donc j'ai voulu remettre la prière au travail. Et donc, je suis partie du tapis de prière que j'ai fait en plâtre. Ça fait aussi référence à l'immigration maghrébine des années 60, où beaucoup sont venus travailler dans le bâtiment. Donc en fait, je me suis mise au travail et j'ai fait des plaques de plâtre de manière régulière, de manière répétitive, un peu comme peut l'être le travail. Donc c'est quelque chose en construction, il y a un tas de plaques de plâtre entassées et aussi que je commence à développer sur le sol à la manière d'un carrelage en fait. Et dans le travail, les matériaux qui sont en mouvement en fait, je cherchais une manière de les transporter. Et quand je suis partie au Maroc, j'ai vu qu'ils avaient des petites charrettes où ils transportaient des légumes ou du matériel quand ils vont dans les chantiers. Donc je suis allée voir une personne, un ferrailleur qui fait les charrettes pour les gens. Donc je lui ai designé ma charrette et il l'a fait à la taille de cette plaque. Dans mon travail, il y a beaucoup un mélange de cultures. En fait, je m'intéresse à la culture maghrébine et musulmane. Donc il y a toute mon assimilation à cette culture et du coup de mélanger des notions comme ça. Donc mélanger la gravure et le plâtre, mélanger ma culture occidentale à la culture orientale, d'où les tapis en fait. La matérialité des tapis aussi qui se retrouve vraiment sur les plaques.
Donc là, je vois une trentaine ou une quarantaine de plaques. Qu'est-ce qui les différencie ?
Il y en a 45. Et en fait, ce qui les différencie, c'est chaque tirage est différent, que ce soit le temps de séchage, mais aussi la consistance du plâtre. S'il y a un peu plus d'eau, ça ne va pas absorber de la même manière. Si le temps est différent, s'il fait plus humide, ça va absorber plus lentement. Donc en fait, l'encre ne va pas ressortir de la même manière. Et en fait, c'est comme chaque plaque que je construis comme une sorte d'échafaudage, en fait, petit à petit, qui se construit. Et ce qui les différencie, c'est le temps, en fait. C'est les premières, d'autres, c'est les dernières. Mais j'ai voulu mélanger un peu tout ça, en fait, comme un carrelage. On ne sait plus quel est le début, quelle est la fin. En fait, c'est plus un ensemble qui nous invite un peu à être traversé. Mais il y a une fragilité dans le plâtre qui est à la fois lourd, mais très fragile. Si on marche dessus, ça casse, en fait. Ça montre aussi un peu une sorte de fragilité de l'immigration, fragilité des mélanges de cultures, mais qui se construit quand même, cependant.
Est-ce que vous faites des séries limitées ? Est-ce que les œuvres sont numérotées ? Comment vous faites ?
C'est une série limitée. Là, il y en a 45. Je ne vais pas en faire plus. Je vais les laisser comme ça. Elles ne sont pas numérotées parce que ça fait partie d'une installation. Mais si jamais je dois en faire pour des personnes, là, je les numéroterai.
Vos projets en termes d'exposition ou de développement professionnel ?
Donc je postule à des résidences. J'ai exposé aussi à la manufacture avec un projet sur les tapis, mais plus des tapis vitraux. Donc j'ai mélangé de la gravure en fait avec de la colle vinylique qui fait une matière très transparente, comme un vitrail. La lumière passe à travers et c'est très coloré pour le coup. Et pour la suite de mes projets, en fait, c'est être artiste, si j'ose dire, d'essayer de vivre de ce que je fais. Mais il y a aussi une grande part de transmission, donc d'où la formation en fait de post-diplôme aux Beaux-Arts de Tourcoing, qui pour moi est important. J'aimerais bien travailler dans un atelier aux Beaux-Arts ou avec des différents publics en tant qu'artiste intervenant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
En termes de technique, vous avez d'autres techniques que vous utilisez ?
Oui, je fais de la photographie et du dessin aussi. Et du coup, de l'installation, en fait. Là, c'est de la gravure-installation. C'est un peu hybride entre les deux.
Et pourquoi pas la tapisserie ? Parce que là, on est vraiment dans un reflet de la tapisserie, en fait.
C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. Tout ce qui est rapport au textile, au tissage, au métissage, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est possible que je développe ça. En fait, au Maroc, j'ai rencontré des femmes qui font des tapis, en fait, de manière très traditionnelle. Et j'aimerais beaucoup aller là-bas avec elles et tester ça et en faire quelque chose de très contemporain aussi.
Voilà, on va rappeler votre nom.
Sarah Van Milik.
Merci beaucoup. Donc je suis avec Coralie Domitaire qui est spécialiste des torchons, si j'ai bien compris.
En effet, je raccommode des torchons à partir d'un savoir-faire ancestral et respectueux qui est la dentelle au fuseau. Au départ, mon intention était personnelle. Ma famille, depuis 3 générations, travaille dans la cuisine. Mon arrière-grand-père était marchand de glace et faisait ses propres crèmes glacées. Ensuite, il a donné le flambeau à ma grand-mère qui a poursuivi et son mari était poissonnier. Lorsque je suis née, ils ont tous pris leur retraite et mes parents ont dès lors ouvert un atelier de cuisine dans notre propre maison. J'ai toujours été plongée dans les torchons et dans la plonge pour la vaisselle. Et c'était une sorte d'hommage de vouloir conserver ces valeurs familiales qui sont intégrées dans mes torchons.
D'accord, donc si je comprends bien, vous avez des torchons usagés, un peu abîmés, vous les faites revivre en fait.
En effet, c'est ça. Au départ, c'était simplement pouvoir les conserver. Mais au final, au fur et à mesure du temps, on m'a fait des dons de proches pour pouvoir justement conserver d'autres torchons. J'ai aussi été perfectionner ma technique à l'atelier de conservation et restauration au musée de la tapisserie à Tournai, auprès d'un chirurgien de la tapisserie, comme je le nomme, afin de vraiment conserver ce respect de la matière.
Alors, je ne sais pas si vous savez, mais au Japon ou dans les pays asiatiques, il y a des artistes qui reprennent des porcelaines, des faïences qui sont cassées, et qui les ressoudent avec de l'or ou des matières précieuses pour leur redonner un cachet qu'ils n'avaient pas forcément avant et que la destruction, en fait, a permis de restaurer sous un nouveau jour.
Tout à fait, c'est le kintsugi et ça m'a beaucoup impressionnée dès lors que j'ai découvert récemment cette technique. J'ai d'ailleurs, durant cette année, fait l'agrégation pour pouvoir enseigner et j'ai proposé une leçon sur cette forme d'hybridation entre l'or et une matière pauvre. Et dès lors, les élèves ont une nouvelle vision d'objets abandonnés comme usuels ou de la porcelaine cassée pour donner un second geste.
On est dans un moment où on réfléchit à ce qu'on ne continue pas de détériorer la planète en consommant trop de ressources. Là, le fait de recycler d'une certaine manière ces objets et de leur apporter une valeur ajoutée, artistique qui plus est, c'est aussi une façon de défendre une cause.
En effet, c'est aussi dans l'Horeca, on est tenté à supprimer les essuies parce qu'il paraîtrait que ce sont des nids à bactéries et de prendre à la place du sopalin. Il y a ce geste très actuel de la cuisine aussi, qu'on les a oubliés, délaissés avec le Covid, qui est en jeu. Et aussi, personnellement, moi, ma quête est une façon de former mon propre trousseau, en fait. Autrefois, au 19e siècle, les jeunes filles commençaient à former leur linge de maison. Elles accumulaient plusieurs linges de draps de lit, de torchons, de tabliers, afin d'avoir une longue notoriété dans les maisons. Ce que je cherche, moi, c'est à franchir l'étape de jeune femme et en même temps de collecter en fait mon propre trousseau moi-même que j'ai raccommodé.
Donc ici, on est devant une collection, on peut appeler ça une collection de serviettes très différentes. Est-ce que justement, par cet accrochage, hein, vous voulez exprimer la diversité de ces serviettes que vous recyclez brillamment?
En effet, au départ, c'était plus homogène, la série, mais au fur et à mesure des dons, les torchons étaient dépareillés, d'autres couleurs sont intervenues, des histoires sur les torchons sont arrivées. Donc, en même temps, lorsque j'implante, je comble le vide du torchon par une greffe de dentelle, j'essaye de poursuivre l'histoire qui a été racontée. Autant dans le rythme de la dentelle que dans la technique.
Par exemple, l'un d'entre eux fait partie d'une ancienne cantine. Il est très coloré et rectiligne. J'ai décidé alors de faire vraiment des va-et-vient incessants avec le même motif pour répéter ce côté ordonné et pourtant si peps qu'on peut retrouver dans les cantines avec les tables colorées.
Donc ces objets devenus objets d'art, ils n'ont plus leur côté fonctionnel ou ils peuvent encore l'avoir, mais bon, a priori, on imagine qu'ils sont faits pour être montrés, présentés à un public ou à des gens qui passent dans la maison.
Oui, je n'ai pas encore poursuivi ce questionnement, mais la simple présentation est le torchon suspendu de façon classique comme chez une grand-mère. Et le retour que j'attends impatiemment, c'est toujours l'écho qui fait chez les gens. Parfois, on m'évoque une recette de cuisine ou le plat d'une grand-mère, le châle aussi. Et c'est ça qui fonctionne pour le moment. Tant que ça fait écho, c'est ce qui me plaît.
Alors souvent, les torchons allaient avec les serviettes et les serviettes avec les nappes. Est-ce qu'on peut imaginer des séries reconstituées d'une certaine manière ?
Oui, tout à fait. Et il y a plusieurs restaurants qui ont fait faillite dans mon petit village à Perrouet. Et j'aimerais faire ce geste justement de rendre hommage à ces textiles abandonnés et jaunis par le temps et incessamment restés sur une même table. Et pourtant qu'ils ont vécu énormément de moments et de repas et qu'ils ont conservé parfois des taches de vin ou des brûlures de mégots de cigarettes.
Autrefois, les jeunes filles brodaient aussi, mettaient leurs initiales sur leur trousseau, justement, là on parlait de trousseau. C'est quelque chose qui peut rajouter un éclat à des serviettes, à des torchons, etc. Et est-ce qu'on sait encore broder ?
Oui, j'ai aussi également fait un stage en des cours à l'école Le Sage à Paris pour vraiment perfectionner la broderie d'art, mais je n'ai pas plus avancé dans cette technique parce que la dentelle au fuseau est apparue et ça a été une révélation. Mais en effet, ces initiales que les jeunes filles d'autrefois brodaient m'a beaucoup interpellée et je cherche encore une façon de signer, mais je n'aimerais pas qu'on se dise que le torchon appartient à moi. Justement, je veux que les gens continuent à pouvoir interpréter eux-mêmes leurs sentiments et leurs propres souvenirs dans les torchons.
Alors en Haute-France, il y a une tradition dans deux zones au moins que je connais de dentelle. Alors je pense à Calais, mais je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est pas dans le Cambrésis où on pratique encore la dentelle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'insérer dans les trous que vous voyez pour en faire des choses qui sont peut-être fabriquées spécifiquement par des maîtres denteliers ?
Oui, justement, mon travail est aussi une sorte d'hommage, mais un moyen aussi de pouvoir conserver des techniques ancestrales que parfois une seule femme dans un village connaît encore et qui malheureusement se perd. C'est pour ça, et d'ailleurs cette raison, que cette année j'ai fait l'agrégation afin de pouvoir enseigner le peu de choses que j'ai appris et à nouveau encore toujours nourrir ce questionnement par les élèves et les étudiants et à côté moi-même, toujours dans cet esprit de partage et de transmission.
Donc si je comprends bien, Coralie Domiter, vous avez un double projet, celui d'être artiste et de diffuser, de vendre vos œuvres, mais aussi le passage, transmission de savoir auprès d'élèves, d'étudiants. Un beau projet professionnel en fait.
En effet, il commence que maintenant. D'ailleurs, j'attends les résultats, mais il semble bon. Mais je pense qu'il y a vraiment une superbe interaction entre artistes et enseignants. À la fois être dans son atelier seul et après trouver une énergie quadruplée dans une classe avec 20 élèves ou 10 élèves. C'est un métier très humain et enrichissant. Et je suis d'ailleurs honorée par mes anciens professeurs que j'aimerais à nouveau nommer leur nom lorsque j'enseignerai aussi. C'est à nouveau un remerciement et en fait un hommage à nouveau pour ceux qui m'ont partagé des choses et qu'à nouveau j'ai à mon tour l'obligation et le devoir de diffuser.
Donc je sens que vous êtes préoccupée par une certaine forme d'esthétique et d'assemblage de couleurs qui soit bien pensé et je vous vois superbement habillée et avec un masque en rapport avec la couleur de votre robe qui a un vrai style. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu cette robe, d'où elle vient ?
Oui, bien sûr. En fait, ma maman est dans la cuisine, mais elle a également touché à la couture à son plus jeune âge. Elle faisait ses propres robes pour sortir le samedi soir. Et avec le Covid, elle a été obligée de couper les fourneaux, de clôturer l'atelier de cuisine. Et entre-temps, pour éviter de broyer du noir, elle a commencé à reprendre la couture. Et évidemment, j'étais volontaire pour avoir de nouvelles tenues, on va dire uniques, et adaptées vraiment à mes morphologies afin de pouvoir les montrer aux yeux du monde.
Voilà, donc des créations sur mesure par votre maman qui vous vont vraiment très bien. Donc, longue vie à votre maman et puis beau projet professionnel.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était Coralie Domiter, donc, qui est enseignante maintenant, elle me l'a confirmé. Et elle recherche des torchons intéressants à remettre en forme, en visibilité artistiquement. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter à campus@campusil.com et à l'attention de l'émission Quoi de Neuf. Et voilà, si vous avez un stock de vieux torchons qui peuvent être intéressants pour elle, eh bien, ce serait une belle façon de la remercier pour sa passion qu'elle expose maintenant et qu'elle présente aussi à ses élèves.
Even the fuss, but the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, "Lil' blood, I'm sorry, 'cause I know you got my back." He was running, I couldn't think, I had to get out of there. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, 'cause you're the shook one. Hands in the tool, is it question your friendship as men? Like you're gonna make me a convict?
Saunier.
Bonjour.
Voilà, donc on voit sur cet espace donc de l'Île Art Up 2021 plusieurs tableaux de la peinture.
De la peinture récente, de la peinture un peu plus vieille dans ma pratique. Des peintures qui ont été un petit peu sélectionnées par le comité. Des peintures que j'ai un peu plus imposées, entre guillemets. Plusieurs points de ma création.
Donc, c'est plutôt abstrait ?
Oui. C'est vrai qu'on est à la radio, donc oui. On est totalement dans une part de la non-figuration plutôt. J'aime mieux parler de la non-figuration plutôt que de l'abstraction. Il y a toujours une part du réel dans mes toiles, ce que j'appelle un petit peu le motif du réel. ce que j'extrais, ce que je vois et comment je le réimplante et je le remets dans le champ de la peinture.
Est-ce que entre ces 3-4 toiles que je vois là, 4, il y a des traits communs? Là, je vois des formes et un style entre ces deux-là qui me paraissent évidents. Entre les autres, peut-être un peu moins?
Alors, vous avez entre guillemets deux séries sur le tableau à votre gauche, le tableau vert, jaune, blanc et noir. Mmh. C'était une toile qui s'appelle 92-94 rue Queudrenard, qui est en fait l'adresse de l'atelier de tapisserie de ma mère, qui est elle-même tapissier. Et cette toile, en fait, est un témoignage un petit peu de mon enfance, d'image mentale, j'appelle ça. J'ai pioché, en fait, dans ces images de tissus égarés, de tissus mélangés, pour, en fait, composer et commencer, en fait. C'est vraiment une toile fondatrice dans ma pratique picturale.
Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer des motifs en tissu, enfin, pour des tissus.
Là, on pourrait. Alors, mon travail en peinture, j'ai pas un travail de motif textile, mais bien sûr, mon travail en peinture pourrait tout à fait se décliner en série. Mais il faudrait que ce soit un travail spécifique pour ça. Ces toiles-là ne sont pas destinées du tout à être imprimées sur textile en multiple.
Si on revient un peu sur votre parcours au départ, vous êtes passé par où, par quoi ?
Je suis directement allé aux Beaux-Arts après mon baccalauréat. Baccalauréat comptabilité, donc rien à voir. J'ai fait, on va dire, 3 grandes années de stagnation aux Beaux-Arts où je cherchais, j'ai un peu testé tous les médiums, la photographie, la sculpture. Et c'est vraiment au bout de la 3e année où j'en suis venu à la peinture, alors que c'était un médium que je n'aimais pas du tout. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça et j'ai trouvé en fait une vraie part de liberté à l'intérieur de celui-ci. Et une manière de pouvoir traduire des choses qui trottaient en moi depuis longtemps, dont ce rapport au textile et à l'enfance en fait surtout.
Donc c'est vrai qu'actuellement, les arts, on peut dire que c'est infini, les déclinaisons. Comment on arrive à trouver un espace de créativité et de reconnaissance en même temps ?
Pour la créativité, c'est juste un travail de régularité, à mon avis. On ne peut pas être fonctionnaire de l'art, on ne peut pas avoir des heures fixes pour créer. La reconnaissance, bah, c'est très compliqué en fait, en fonction des goûts de chacun, mais à mon avis, c'est dans ces espaces, en tout cas la démonstration, là où on est en ce moment, voilà, d'avoir une vision directe. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir sortir de l'atelier. Sortir l'étoile de l'atelier, la fait déjà exister en tant que telle. Donc c'est vraiment ce point-là, oui, qui est important en fait. C'est la confrontation et surtout la sortie de l'atelier en tant qu'objet, en tant que tableau.
Est-ce que le regard du visiteur peut faire modifier ou penser à aller vers d'autres, d'orienter un peu le travail autrement ?
Du visiteur, pas en tant que tel. On serait peut-être tenté d'aller plutôt du regard de l'acheteur, certainement. Oui, ce sont un pan qui peut exister, mais bon, il faut savoir quand même aller. Il faut travailler pour soi quand même, à mon avis, c'est le plus important.
Voilà, donc un projet qui est bien déterminé maintenant, déjà, pour vous ?
Des fondations qui sont bien déterminées. Je ne dirais jamais que je suis peintre, j'essaye de faire de la peinture et c'est déjà un beau boulot, je vous assure.
Prochaines étapes ?
Prochaines étapes, un nouvel atelier, j'espère, cette année, et une grande série basée sur les falaises.
Voilà, c'était Pierre Saunier, donc dernier des artistes que j'ai pu rencontrer, enregistrer sur le stand réservé donc aux Révélations 2021 du salon Lille Art Hub 2021. Donc voilà, de passionnantes rencontres. J'espère que tout cela vous a donné un petit peu une idée globale de l'état d'esprit de l'ensemble de ces personnes qui ont tous des projets différents. Dans toutes des projets différents, mais qui s'intègrent à un univers large, riche, et que je leur souhaite le plus beau, le plus intéressant possible. Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, campuslille.com.